en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
On ne saurait évoquer la Chine et les académies sans penser à Alain Perfit, dont les ouvrages sur la Chine ont eu une grande renommée. Nul ne peut oublier son célèbre « Quand la Chine s'éveillera » paru en 1973, pas plus que « L'Empire immobile » ou encore « La Chine s'est éveillée ». Pour cette émission en habit vert, consacrée au parcours de l'académicien Alain Perfit, Canal Academy vous fera entendre de larges extraits de l'éloge que lui a consacré son successeur à l'Académie française, M. Gabriel de Breuil. En effet, Alain Perfit fut élu à l'Académie française en février 1977 et à l'Académie des sciences morales et politiques en 1987. Et à sa mort, le fauteuil qu'il occupait à l'Académie française, le 11e fauteuil, a été déclaré vacant et, le jeudi 7 février 2002, son successeur, M. Gabriel de Breuil, a prononcé, selon la tradition, son éloge. Avant la lecture d'extraits de cet éloge, rappelons dans l'immédiat et en préambule les principales étapes de la vie d'Alain Perfit. Il est né en 1925 à Najac, dans le département de l'Aveyron, de parents instituteurs qui habitaient dans l'école communale. Son frère aîné, normalien comme lui, rivalise d'excellence et tous deux font honneur à leurs parents. En 3 années, au sortir de l'adolescence, tout se joue. Alain Perfit perd son accent occitan en quittant le lycée de Montpellier et il se donne un prénom, Alain, car le sien, Roger, prête à confusion avec celui d'un cousin dont les livres font quelquefois scandale. Il se convertit au catholicisme et accomplit une année de retraite chez les dominicains au couvent de Corbara en Corse. Est-ce durant ce séjour de réflexion qu'il programme sa vie, de 1948 à 1958, 10 ans de vie diplomatique, de 58 à 68, 10 ans de vie politique, de 68 à 78, 10 ans de vie littéraire, peut-on rêver d'une vie mieux remplie? Alain Perfit fut élu député de Seine-et-Marne en 1958 et portait, on le sait, un grand attachement à sa ville de Provins. Il fut réélu dans les 10 premières législatures de la Ve République. Il fut plusieurs fois ministre dans les gouvernements du général de Gaulle, ministre de l'Information, des Rapatriés, de l'Information à nouveau, de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, de l'Éducation nationale. De 1972 à 1973, il est secrétaire général de l'UDR, le mouvement gaulliste, puis en 1973, ministre des Réformes administratives et du Plan, en 1974, ministre des Affaires culturelles et de l'Environnement, et de mars 1977 à mai 1981, garde des Sceaux. En 1995, il est élu sénateur de Seine-et-Marne. À sa vie politique se mêle une vie journalistique, si l'on peut dire, puisqu'il préside le comité éditorial du Figaro, journal national quotidien, dans lequel chacun de ses articles est attentivement analysé. C'est à cette époque qu'Alain Perfit est élu à l'Académie française au fauteuil de Paul Morand. Mais Alain Perfit n'a pas attendu les années 70 pour écrire et Gabriel de Breuil, dans son éloge, le rappelle.
Quiconque douterait qu'Alain Perfit fût un écrivain né devrait se reporter à ses livres de jeunesse. Ils sont toujours révélateurs et montrent la force de la sève. Un premier roman, « Les roseaux froissés », obtint 2 voix au Renaudot. Écrit à 20 ans dans la filiation du Grand Maulne, il dévoilait l'adolescent introverti qui s'engage tout entier et intériorise les interdits, alors que d'autres, autour de lui, les transgressent. De nos jours, remarquera l'auteur, ce sont les purs qui transgressent la permissivité. Ils sont plus nombreux qu'on ne croit. Le mythe de Pénélope, parrainé chez Gallimard par Albert Camus et Marcel Arlan, témoigne de dons éclatants. Entrant après Racine, Dostoïevski, Gide, Valéry, dans la familiarité des grands mythes, Alain Perfit réinterprète l'Odyssée en donnant du poème une lecture nouvelle qu'avait pressenti Aristote. Dans son immobilité, Pénélope n'est nullement le symbole de la fidélité au passé. Elle personnifie, au contraire, la confiance en l'avenir, qui fait naître ce qu'elle attend. L'auteur développe de savantes variations sur le thème de l'attente, accomplissement de l'espérance, de la croyance engendrant l'espoir, qui engendre à son tour l'amour. Il prend ainsi l'exact contre-pied du mythe que célèbre Albert Camus à propos de Sisyphe, le père d'Ulysse, le mythe de la révolte, de l'absurde. La rédaction de Rue d'Ulm, entreprise pour célébrer le 150e de l'école, donne aux jeunes normaliens l'occasion de rendre visite aux écrivains célèbres qui en sont sortis, et même à André Gide, qui, sans en être, a mis en scène un cube dans La Porte étroite. La visite a pour prétexte d'obtenir le droit de reproduire un passage si court que sa citation n'exige pas d'autorisation. Intrigué, André Gide s'enquiert auprès de son interlocuteur de ce qu'il a lu de lui. « Tout !» répond Alain Perfit. Dans la suite de l'entretien, Gide effectue de discrets sondages qui lui prouvent qu'en effet, il a tout lu. D'ailleurs, on le vérifiera à chaque occasion. Alain Perfit a toujours tout lu. Il retournera souvent chez André Gide et il reconnaîtra plus tard qu'à ses débuts, les deux maîtres dont il a suivi les préceptes en littérature ont été André Gide et Roger Perfit. On ne s'attendait pas à des patronages littéraires aussi sulfureux.
Gabriel de Breuil, dans son éloge, découpe, si l'on ose dire, l'œuvre d'Alain Perfit en quatre sommets, car, dit-il, il y a quelque chose d'himalayen dans le travail d'Alain Perfit. Le premier de ces sommets se nomme la Chine.
Si le premier de ces sommets se nomme la Chine, c'est que le président de la mission d'études de l'Assemblée nationale en est revenu bouleversé. La Chine et ses sortilèges se sont emparés de lui et ne lui inspireront pas moins de 6 livres. C'est aussi que l'homme politique souhaite s'évader du cadre national et de ses déboires et aborder la scène internationale est l'un des enjeux majeurs du moment, le défi lancé par la Chine au modèle soviétique. C'est surtout qu'il s'efforce, depuis près de 20 ans, de déchiffrer le mystère de cet empire qui n'a jamais cessé de le fasciner. La mission de 1971 est la première depuis la Révolution culturelle. Le rapport publié au retour par l'Assemblée nationale, d'une sécheresse tout officielle, passe presque inaperçu. Son livre, lui, fait sensation. Le titre intrigue. « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». La prophétie, reprise par Lénine, est attribué à Napoléon à Sainte-Hélène. S'agit-il d'un récit de voyage après beaucoup d'autres, d'une méditation sur la Chine éternelle, celle des sinologues? Nullement. Avec le flair du politique et le talent du reporter, Alain Perfit analyse le modèle d'une société en devenir, brosse le portrait de la nation chinoise, s'efforçant de déceler le degré de sinisation du marxisme-léninisme et tente la psychanalyse d'un peuple. Le livre s'ouvre par un magistral portrait de Mao devant l'histoire et un tableau de la pensée de Mao Tse-tung. Les méthodes de propagande et d'endoctrinement mises en œuvre pour changer l'homme sont décrites avec minutie. Le bilan des faiblesses et des réussites de la voie chinoise est dressé. La conclusion évalue le coût terrifiant de cette expérience en vie humaine, en contraintes physiques et intellectuelles, en instabilité chronique. Le grand intérêt de cette fresque est son impartialité. L'auteur sait tout sur la Chine des années 70. Son tableau n'est pas celui d'un diplomate, ni d'un historien, ni d'un sinologue. Sa position est celle du chercheur qui professe que la Chine est une nation-civilisation. Pour la comprendre, il faut renoncer non seulement à l'occidentalisme, mais aussi à l'universalisme. Ce précepte qu'André Siegfried adressait aux géographes du XXe siècle, « Démercatorisez-vous », il l'applique à sa propre projection. Il peint le quart de l'humanité, un monde enclos dans ses propres traditions, retranché d'une autre et radicalement différent de lui. Vu de la Chine, Valéry avait raison. L'Europe est bien devenue ce qu'elle est en réalité, un petit cap du continent asiatique. À sa parution, l'essai fut salué pour l'abondance des faits, des révélations, des jugements, l'honnêteté dans l'approche du sujet. Les lecteurs feront un triomphe de 2 millions d'exemplaires à ce livre de référence. Bref, on assistait à la naissance d'un classique, le meilleur roman de l'année, jugea en connaisseur Jacques de La Crételle. L'impossible pari de penser la Chine a-t-il été gagné ? Pour en décider, il faut suivre Alain Perfit dans son itinéraire chinois. Après maints retours, il publie de suite à son premier livre. La tragédie chinoise, un an après le printemps sanglant de la place Tiananmen, et au bout de 23 ans, une sorte de miroir dressé, la Chine s'est éveillée. L'augure est alors assailli par l'actualité. Ces oracles ont un poids politique et sont donc sujets à débat. Pour les uns, ils glorifient Mao et montrent trop d'indulgence envers la révolution culturelle. Pour les autres, les anciens maoïstes, il a le tort d'excuser Deng Xiaoping, le réformateur, et de justifier la répression des étudiants qui l'ont défié. Pour d'autres encore, ses fréquents séjours le rendent suspect de complaisance pour le régime de Pékin. Pour certains, enfin, il rêve la Chine contemporaine comme les spécialistes ont rêvé la Chine traditionnelle.
Après le succès des ouvrages consacrés à la Chine, arrive un autre sommet de l'œuvre de Perfit, un sommet d'un genre nouveau, un réquisitoire implacable et un plaidoyer chaleureux, un livre à la fois violent et doux, Le Mal français. Ce fut un succès foudroyant, comme le fut d'ailleurs son C'était de Gaulle. Car bien que Perfit ne fût pas un intime du général, celui-ci aimait à se confier à lui.
La vraie question que pose la tentative passionnée de l'esprit français de résoudre l'énigme chinoise est celle de sa crédibilité. Qui éduquera le regard susceptible de rendre compte de la réalité chinoise ou de percevoir son mouvement ? Qui traduira sûrement le présupposé, l'implicite, l'idiotisme d'une civilisation dans la langue d'une autre ? L'attitude scientifique elle-même n'est-elle pas suspecte de déformation cartésienne ? Napoléon avait raison. Nous savons que le moment de trembler approche. Le regard d'Alain Perfit nous y aura préparés. Il aura même, espérons-le, contribué à conjurer le danger. Alain Perfit a la chance des chercheurs de diamants qui découvrent la pierre rare. En 1954, en effet, il achetait chez un bouquiniste de Cracovie une bibliothèque des voyages contenant la relation de l'ambassade de Lord McCartney en Chine en 1793. 25 ans plus tard, un professeur chinois de ses amis exhume dans les archives de la cité interdite la correspondance secrète adressée à l'empereur au sujet de cette ambassade et annotée par lui. Les missionnaires en ont également donné des récits qui gisent encore dans les archives des ordres. 5 voyages, 10 années de recherche, 4 années d'écriture font de l'Empire immobile un voyage philosophique d'un prodigieux intérêt. À propos d'un épisode connu qui n'est que la 16e ambassade manquée de l'Europe vers la Chine, la confrontation des documents, la diversité des voix, l'art du conteur font mesurer la distance entre deux mondes. L'arrogance anglaise et la suffisance chinoise s'approchent comme 2 étoiles, mais ne se rencontrent pas. Il se trouve que le récit paraît au moment précis de la répression de la révolte étudiante. Le lecteur ne peut manquer d'être frappé par la similitude de situation avec la Chine populaire. Cet enchaînement trop traditionnel, cet immobilisme remuant, ne sont-ils pas l'objet même des réflexions consacrées par Alain Perfit à ce que l'on pourrait appeler le mal chinois, qui n'est peut-être pas différent du mal français? Des quatre grands livres d'Alain Perfit, quel est donc le plus important? Dans l'ordre du succès, c'est « Quand la Chine s'éveillera ». Dans l'ordre de la politique, c'est « Le mal français ». Dans l'ordre des idées, c'est « La société de confiance ». Mais devant l'histoire et dans la durée, ce sera à coup sûr « C'était de Gaulle ». Pour mieux saisir l'unité de cette œuvre, il est un fil précieux, celui des ouvrages qu'il songeait à écrire. Après le succès de « Quand la Chine s'éveillera », certains attendaient un livre sur les États-Unis, sur l'Amérique latine, sur l'Afrique. Mais son style n'était pas celui de la simple enquête. Il pensait à écrire sur la Corse, société de défiance, sur les Corées, société jumelle, sur l'Irlande, société double, sur la Pologne, société nationale et religieuse, sur le Québec américain et français. Ses choix montrent sa fidélité à ce champ de connaissances qu'il s'est donné la vocation de labourer. L'histoire des mentalités éclairée par le sentiment de confiance. Convergence de pensée à travers les œuvres ne signifie pas cependant peinture d'un unique modèle. L'historien des mentalités réfléchit sur les singularités. Cette démarche distinctive est celle qui, toute proportion gardée, oppose les analyses d'Alain Perfit à la philosophie de portée universelle d'un Montesquieu. La différence des approches est révélatrice de la distance qui sépare les deux siècles, celui des Lumières et celui des tyrannies.
Vous venez d'entendre, lu par Fernand Guillot, les principaux passages de l'éloge que Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France depuis janvier 2006, a consacré à son prédécesseur à l'Académie française, Alain Perfit, éloge prononcé lors de la séance sous la coupole le 7 février 2002. Précisons enfin que le successeur d'Alain Perfit à l'Académie des sciences morales et politiques est l'ancien Premier ministre, M. Raymond Barre.